RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivie les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Renforcer des relations, l'Indonésie et le Laos préparent plusieurs activités ». L'ambassade d'Indonésie à Vientiane, au Laos, encourage les investissements indonésiens au Laos. L'Indonésie devient l'un des co-sponsors Global Compact on Migration. La Chambre de commerce et d'industrie des États-Unis, le climat d'investissement et de réglementation d'Indonésie augmente. Kala a dit que pas de super-héros dans la réalisation de la paix mondiale. Voici les journaux complets. Afin de renforcer les relations entre l'Indonésie et le Laos, l'ambassade indonésienne, ou KBRI, à Vientiane, au Laos, a préparé plusieurs programmes d'activité jusqu'à la fin de 2018. L'un des programmes est la promotion de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2018, qui se tiendra en octobre prochain à International Convention Center, Bumi Serpong Damai, à Banten. L'ambassade indonésienne à Vientiane continue d'essayer d'inviter des hommes d'affaires au Laos à participer à l'événement initié par le ministère indonésien du commerce. L'ambassadeur indonésien au Laos, Pratito Suharyo, lors d'une interview spéciale avec La Voix de l'Indonésie récemment, a déclaré qu'en plus des activités officielles comme exposition commerciale de l'Indonésie 2018, ce parti avait également préparé plusieurs activités pour renforcer les relations, telles que le festival du film de Luang Prabang et le tour de moto de Jakarta à Vientiane au Laos. En octobre prochain, l'Indonésie tiendra l'exposition commerciale de l'Indonésie et je suggère à la société laotienne d'y participer. Et nous organiserons également le festival du film de Luang Prabang en décembre. Et nous commençons à le promouvoir. Et bien sûr, toutes les activités visent à promouvoir les deux pays. En novembre, nous avons également organisé le tour de moto de Jakarta au Laos. En ce qui concerne l'exposition commerciale de l'Indonésie, le Laos est le pays avec la plus grande valeur de transactions lors de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2017, avec une transaction totale de 588 millions de dollars américains, soit 45,82% des transactions totales. La transaction, selon les données du ministère indonésien du commerce, est dominée par les produits du charbon. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Laos, Pratito Suharyo, a invité des investisseurs ou des sociétés indonésiennes à investir au Laos. Selon lui, le Laos est un pays de destination très potentielle car il dispose des ressources naturelles abondantes, notamment de produits miniers. En outre, le Laos dispose d'un potentiel qui est assez grand pour le développement de destinations touristiques. L'ambassadeur Pratito, dans une interview spéciale avec La Voix de l'Indonésie, récemment a déclaré qu'à l'heure actuelle, certains investisseurs ou sociétés indonésiennes sont venus au Laos. Certains d'entre eux ont étudié ou évalué les domaines dans lesquels ils peuvent investir. Vous savez que le Laos a de nombreuses ressources naturelles et des ressources touristiques. L'une des ressources naturelles est l'exploitation minière. Ils ont du potassium, du charbon, de l'étain. C'est pourquoi le président a pris la décision que des investisseurs ou des sociétés indonésiennes investissent à l'étranger. Maintenant, il y a beaucoup d'investisseurs et des sociétés indonésiennes ici. Nous avons vérifié et ils se sont également rendus dans plusieurs régions pour effectuer des évaluations. L'ambassadeur Pratito a ajouté qu'en plus de l'exploitation des ressources naturelles, les produits miniers, le produit de la forêt ou le bois est l'un des potentiels du Laos. Par conséquent, il continue d'encourager et de faciliter les désirs des investisseurs et des sociétés au Laos. Suite à cela, l'ambassade d'Indonésie à Vientiane, au Laos, en collaboration avec l'Agence de coordination des investissements étrangers, a organisé mardi 25 septembre 2018 un forum d'investissement pour encourager les entrepreneurs indonésiens à investir au Laos. À travers des séminaires et des exploitations commerciales entre les hommes d'affaires de l'Indonésie et ceux de Laos, ils pourraient être en mesure d'améliorer les relations entre les peuples du pays et d'encourager les entrepreneurs indonésiens à investir à l'étranger, en particulier au Laos. Cette déclaration a été transmise par l'ambassadeur Pratito lors de l'ouverture d'un forum d'investissement entre des entreprises indonésiennes et Laos à l'ambassade indonésienne à Vientiane. L'événement qui a été participé par plus de 40 entreprises d'Indonésie et du Laos a reçu des réponses positives des hommes d'affaires Laos qui espèrent créer des opportunités de coopération commerciale entre les entrepreneurs des deux pays. Les travailleurs étrangers sont l'un des problèmes qui sont soulevés par l'Indonésie dans diverses réunions bilatérales en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les États-Unis, mercredi 26 septembre, heure locale. Selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse reçu par La Voix de l'Indonésie à Jakarta, jeudi 27 septembre, la question des travailleurs étrangers était étroitement liée à la politique étrangère, entre autres la protection des citoyens indonésiens. En tant que mesure concrète, l'Indonésie est devenue l'un des co-sponsors du Global Compact on Migration. Cette mesure a été prise car l'Indonésie a un certain nombre de travailleurs migrants relativement élevés. L'Indonésie s'est jointe à d'autres pays en tant que co-sponsor, à savoir l'Allemagne, le Brésil, les Philippines, le Mexique et la Turquie.
Tentunya ini terkait dengan kebijakan politik luar negeri.
Cela est lié à notre politique étrangère. L'une des priorités est la protection des citoyens indonésiens. Alors, comment le monde est d'accord pour protéger nos migrants ou nos travailleurs? Par conséquent, l'Indonésie est l'un des co-sponsors du Pacte mondial sur les migrations, en raison du grand nombre de travailleurs migrants indonésiens aujourd'hui. Parmi les co-sponsors que j'ai mentionnés, entre autres le Brésil, les Philippines, l'Indonésie, l'Allemagne, le Mexique et la Turquie. Selon Retno Marsudi, l'Indonésie offre trois solutions pour les travailleurs migrants dans le monde. Les trois solutions qui sont proposées, en première de construire la confiance à la synergie entre le pays d'origine, le pays de transit et le pays de destination des travailleurs migrants. Reto Matsudi a souligné que le renforcement de la confiance était important pour réduire le risque de violation. Deuxièmement, l'Indonésie encourage les accords bilatéraux, par exemple entre l'Indonésie et le pays de destination des travailleurs migrants, parce que c'est très important pour les efforts de protection. La troisième solution, le renforcement des mécanismes régionaux et internationaux en créant des conditions pour garantir la sécurité des travailleurs migrants. L'un des moyens consiste à renforcer les capacités des travailleurs migrants. La Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN, des États-Unis a révélé que l'environnement d'investissement et de réglementation en Indonésie s'améliorait mieux, mais qu'il devait toujours être plus favorable aux investissements étrangers en créant une sécurité juridique. CADIN et les hommes d'affaires des États-Unis américains voient de grandes opportunités en Indonésie, encouragées par la réforme de la réglementation menée par le président Joko Widodo. C'est ce qu'a déclaré par Charles Freeman, ou le vice-président principal de CADIN des États-Unis, pour l'Asie lors du sommet sur les investissements américano-indonésiens 2018 qui s'est tenu jeudi à Jakarta. Selon un rapport publié jeudi 27 septembre par US Chamber of Commerce et American Chamber of Commerce, le climat des affaires en Indonésie évolue dans une direction meilleure. Il a estimé que le gouvernement devrait se concentrer correctement sur la déréglementation pour encourager de nouvelles opportunités d'investissement. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que le monde n'avait pas besoin de rechercher un super-héros pour réaliser la paix mondiale en plus d'un leadership mondial de toutes les nations et d'une responsabilité partagée. C'est ce qu'a affirmé par Yusuf Kalla lors de son discours dans la séance de débat général de la 73e Assemblée générale des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, jeudi après-midi, heure locale. Kalla a déclaré que le leadership conjoint était au cœur des Nations Unies. Le vice-président a salué le thème présenté cette fois à la 73e Assemblée générale des Nations Unies, rendre les Nations Unies pertinentes pour toutes les nations, le leadership mondial et partage des responsabilités pour la paix, l'égalité et les communautés durables. Le thème de cette année reflète de manière appropriée ce qui doit être réalisé par toutes les parties en tant que communauté des nations, une communauté de dirigeants. Les auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Des informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Palembang, à Sumatra Sud. L'Association indonésienne de badminton PBSI Palembang a organisé un tournoi de Coupe 1 auquel ont participé des centaines d'étudiants pour capturer de nouveaux athlètes. Le chef de service de la jeunesse et des sports, Ahmad Zazuli, a déclaré jeudi que l'activité visait à rechercher de nouveaux athlètes. Selon Zazuli, le badminton pense que le tournoi aura un impact positif sur l'impression d'une nouvelle génération d'athlètes, en particulier dans la ville Palembang. Cependant, le président du PBSI Palembang, le colonel PP Yadi Nur Effendi, a déclaré que le tournoi visait 6 mois pour organiser un tournoi dans l'espoir de donner naissance aux jeunes athlètes atteignant une portée nationale et internationale. Ensuite, l'info de Bogor, Jawa West. L'autobus touristique Uncal de la ville Bogor, Jawa West, est à nouveau ouvert au public chaque samedi et dimanche. Jimmy Hutapea, directeur des transports de la ville Bogor, a déclaré à Antara jeudi dernier que le bus fonctionnait depuis presque un mois. L'autobus Unchal a été lancé au début de la nouvelle année 2017. Il a été testé et a reçu une réponse positive du public en attente de son opération officielle. Pendant près d'un an et demi, le fonctionnement de l'autobus a été retardé à cause du processus de délivrance de permis qui a dû subir une série de vérifications. Après avoir obtenu l'autorisation, l'autobus a été utilisé pour le défilé culturel Elaran et les activités du relais de la flamme des Jeux asiatiques en août dernier. Après le 17 août, l'autobus a été officiellement exploité pour le public. L'autobus est également équipé d'un guide touristique qui expliquera chaque objet ou lieu historique qui sont passés le long du voyage. La dernière info vient de Wamena, Papouasie. La communauté au district Silo Karnodoga, en région Jayawijaya, Papouasie, a donné une superficie de 90 hectares à l'armée nationale indonésienne TNI. Le chef de la tribu, Soli Karnodoga, Alex Doga, mercredi dernier à Jayawijaya, a déclaré que la fourniture du terrain est à cause de la TNI qui était très utile, à la fois dans les zones faciles à terrain difficile, pour aider la communauté. Alex Doga s'est également engagé à ce que les gens de Silo Karnodoga continuent à soutenir la TNI. Le commandant de la 17e région militaire Cendrawasi, le major général George L. Nadus Supit, a été confirmé à cette occasion comme le commandant d'une grande tribu dans la région des montagnes centrales par le chef de la grande tribu Silo Karnodoga. George L. Nadus Supit a exprimé son appréciation à la population de Silo Karnodoga. Selon lui, la TNI a un plan d'activité dans le cadre de la formation territoriale. Il espère que le plan pourra générer de la prospérité pour la communauté. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 29 septembre. Le 29 septembre 1955, la première élection législative de l'Indonésie. On dit souvent que cette élection générale est l'élection d'Indonésie la plus démocratique. L'élection 1955 a été réalisée lorsque la situation de sécurité au pays n'est toujours pas favorable. Certaines régions étaient en proie par le chaos. Dans ces circonstances, les membres des forces armées et de la police choisissent également ceux qui ont servi dans des zones vulnérables ont été transférés sur le site électoral. Cette élection vise à élire les membres de la Chambre des représentants du peuple et le constituant. Le nombre de sièges parlementaires qui ont été contestés ont totalisé 260, alors que le constituant 520 sièges, ainsi que 14 représentants des groupes minoritaires qui sont nommés par le gouvernement. Cette élection a été préparée sous la direction du premier ministre Sastro Amijoyo, mais Sastro Amijoyo a démissionné et au jour du scrutin, le chef du gouvernement était tenu par le premier ministre Burhanuddin Harahap. Les élections 1955 est divisée en deux phases. La première phase, les élections pour élire Les membres de la Chambre des représentants du peuple, le 29 septembre 1955, en présence de 29 partis politiques et les individus. La deuxième phase, l'élection d'élire les membres de l'Assemblée constituante, le 15 décembre 1955. Le 29 septembre 2006, le vol 1907 de Gol Transport Aéreo s'est écrasé à Amazonas, au Brésil, tuant 154 personnes. Le vol 1907 de Gol Transport Aéreo était un Boeing 737-800 SFP qui s'est écrasé sur Peixoto de Azevedo. Cet accident a tué tous ses passagers, totalisant 148 personnes et 6 membres d'équipage. L'avion allait de Manaus à Rio de Janeiro, entrant en collision avec un avion d'entreprise Embraer Legacy qui se dirigeait vers les États-Unis. Le 29 septembre, la journée de licencié indonésien. La journée nationale du licencié est commémorée chaque 29 septembre. La journée nationale du licencié vise à apprécier les chercheurs qui ont atteint une stature intellectuelle. Les chercheurs sont considérés comme l'un des déterminants du progrès de la nation, car ce sont des atouts nationaux qui devraient contribuer au développement. La commémoration de la Journée nationale des licenciés est l'élan nécessaire pour que les licenciés réalisent des évaluations. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, des fondamentaux solides, l'économie de l'Indonésie est projetée bonne. La dernière publication de la Banque asiatique de développement BAD indique que de solides fondamentaux peuvent maintenir la performance de la croissance économique de l'Indonésie en 2018 et en 2019 en raison de divers défis mondiaux. Winfried Wicklein, représentant en chef de la BAD en Indonésie, a déclaré lors d'une conférence de presse sur la publication des perspectives du développement en Asie à Jakarta le mercredi 26 septembre, bien que l'environnement mondial soit assez lourd, l'économie indonésienne devrait continuer à bien se développer cette année et l'année prochaine. Citant le rapport de www.adb.org, Winfried Wicklein a ajouté que cette croissance économique était soutenue par l'inflation qui était toujours sous contrôle grâce à une situation budgétaire bien gérée et à un certain nombre de mesures prises pour maintenir la stabilité. Wicklein a rappelé que l'Indonésie doit poursuivre ses efforts pour encourager les perspectives à moyen et long terme d'une croissance économique durable et profiter à tous les résidents. Ces conditions nécessitent des grands investissements et une accélération des infrastructures majeures, une amélioration de l'éducation et des compétences et une réforme durable dans le monde économique. Le rapport sur les perspectives du développement en Asie a également rappelé l'importance de politiques efficaces pour équilibrer la croissance économique et la stabilité afin de surmonter l'incertitude mondiale due aux tensions dans le commerce international et au resserrement monétaire aux États-Unis. La politique budgétaire est toujours menée avec prudence, avec un faible déficit budgétaire et une dette publique de 30% du produit intérieur brut. Dans la publication, la Banque asiatique de développement prévoit que la croissance économique de l'Indonésie en 2018 atteindra 5,2% et que la croissance économique future devrait se poursuivre en 2019. Les dépenses des ménages devraient augmenter régulièrement à raison d'une augmentation des revenus soutenus par la croissance de l'emploi, de l'élection générale qui contribue à la consommation. La consommation des ménages est également favorisée par la stabilité des prix, avec un taux d'inflation nationale estimé à 3,4% en moyenne en 2018 et à 3,5% en 2019. Cette croissance de la consommation des ménages reste forte et contribue aux performances économiques, bien que les exportations à court terme aient ralenti et que la politique monétaire ait été utilisée pour atténuer la pression extérieure et maintenir la stabilité. En outre, les investissements du secteur privé ont augmenté, de même que l'amélioration du climat des affaires, notamment l'amélioration des infrastructures, l'amélioration de la logistique et la simplification des réglementations grâce à un système de services intégrés. Dans cette publication, la BAD estime également que le déficit de la balance courante en 2018 et 2019 se situe autour de 2,6% contre le produit intérieur brut, en raison du fort soutien du secteur des investissements et du rythme de la croissance économique. Cher ami, c'était mon Indonésie. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant Gempol Pleret, culinaire traditionnel de Solo. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonésie. Gempol Pleret est l'un des légendaires culinaires de Solo. Il n'y a pas beaucoup de commerçants qui vendent de la cuisine Gempol Pleret. Bien qu'ils comprennent des produits culinaires rares à Solo, dans certains endroits, il existe encore des commerçants qui vendent du Gempol Pleret, comme dans la région de Pasar Gede. Certains disent Gempol Pleret comme boisson en raison de sa présentation rafraîchissante, mais il y a aussi ceux qui l'appellent la nourriture parce qu'elle remplit quand on en profite. Les ingrédients de base de cette boisson typique sont la farine de riz et la farine de riz collante. Pleret est fabriquée de farine de riz à base de pâte est formée de fines feuilles ressemblant à des boulettes. Après cela, cuit à la vapeur jusqu'à cuisson. Pleurette a une variété de couleurs. Certains sont bruns et certains sont roses et verts. La couleur de pleurette provient du sucre mélangé au mélange de farine de riz. Si pleurette est brun, cela signifie que le mélange de farine de riz est ajouté à du sucre brun. Tandis que pour le plaqué en vert ou en rose, le sucre utilisé est du sucre et est donné pour colorer les aliments. Gempol est un point blanc. Il y a aussi ceux qui appellent gempol combasso de riz. C'est parce que le processus de fabrication de gempol est similaire au processus de fabrication des boulettes de viande. L'ingrédient principal pour la fabrication du gempol est le riz à gros grains qui s'appelle alors meniran. La qualité du riz a un effet sur la saveur de gempol produite. Un bon riz avec un bon processus produira de délicieux plats culinaires. Faire la tumut, le meniran existant est ajouté avec du lait de coco épais pour former une pâte. Ensuite, le mélange est ajouté avec un peu de sel et de sucre. La pâte meniran est ensuite formée comme des boulettes de viande et bouillie dans de l'eau bouillante. Si le gempol a déjà flotté, le signe de gempol est mûr. Enfin, pour pouvoir présenter gempol pleurette, il est nécessaire de faire du bouillon de lait de coco qui est fabriqué à partir de lait de coco mince et de sucre. Pour les exhausteurs de goût, vous pouvez ajouter un peu de sel. Ce lait de coco doit être cuit à feu moyen tout en continuant à le garder sous agitation afin que le lait de coco ne se casse pas. Gempol pleurette est servi avec un bol. Tout d'abord, nous mettons un ou deux morceaux de gempol et de pleurette, puis arroser avec du lait de coco. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des glaces pilées ou des glaçons qui sont brisés en petits morceaux. À titre de variant, on peut également ajouter des morceaux de jacquier ou de ruban adhésif vert. Pour un bol de glace de gempol pleurette, il suffit de payer 5000 rupiah, ce qui est tout à fait abordable, non? Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur Bromo Marathon 2018 et Festival Bromo Extravaganza. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le 23 septembre, le gouvernement de la ville Pasuruan a organisé le marathon de Bromo en 2018. Cette année marque la sixième année de l'événement. Cette année, le marathon de Bromo a été organisé par Plataran Bromo, un complexe de luxe au village Ngadiwono. En complément et en différenciation avec le marathon de Bromo précédent, Plataran Bromo organise également le festival Bromo Extravaganza. Le festival Bromo Extravaganza est rempli de concerts de musique, de spectacles culturels et de compétitions de chip. Le PDG du groupe Plataran et l'organisateur de l'événement, Joshua Marcus, souhaite que l'événement du Bromo Marathon 2018 ne soit pas seulement un événement sportif, mais aussi un événement amusant. Outre le festival Bromo Extravaganza, le paysage magnifique de la région Bromo, ainsi que la sagesse culturelle et artistique locale de Tengger, vivant dans la région Bromo, constitue la valeur ajoutée pour cet événement. Sutiono, comité du Bromo Marathon 2018, a déclaré qu'il y avait trois catégories pour le marathon de Bromo cette année, à savoir 10 km, 21 km et 42 km. L'événement du marathon a réuni 1320 participants de 31 pays. Ces trois catégories de marathon commencent à se terminer au village Tosari, Tengger. Le chemin parcouru par les participants était assez difficile car ils passaient plusieurs collines. Non seulement ils ont été présentés avec de beaux paysages, mais les participants ont également été accueillis par l'hospitalité de la communauté environnante, prête à accueillir et encourager les participants sur le parcours du marathon. À l'avenir, le marathon tentera de contribuer davantage aux efforts de conservation de l'environnement. Il est prévu que le prochain marathon Bromo sera en synergie avec la communauté environnementale et les résidents locaux. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Project Pop. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je vous présente la chanson intitulée « Coconut » ou en français « Noix de coco ». Bonne écoute!
No. J-pop sudah hadir di sini. Sensi macam orang sakit gigi, walau kamu sendirian, asal hati gak kesepian.
Project Pop is in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Chanson intitulée Coconut par Project Pop. Coconut est la dernière chanson de Project Pop sortie au milieu de l'année 2018. La musique et les paroles portées par Project Pop sont toujours les mêmes que les caractéristiques, c'est-à-dire facile à comprendre et très amusante. Cette chanson joyeuse invite les auditeurs à se détendre et à profiter de la vie. Project Pop est un groupe de musique de Bandung fondé en 1996. Mais ce groupe vient du groupe de comédie de Padayangan depuis 1982. Padayangan a donné naissance à Project Pop est un groupe de musique de Bandung fondé en 1996. Mais ce groupe vient du groupe de comédie de Padayangan depuis 1982. Padayangan a donné naissance à P Project, un groupe de musique de comédie. Peu de temps après, P Project s'est également régénéré en formant Project Pop. Ses membres sont maintenant Ujo, Yoshi, Odi, Tika et Gugum. Les auditeurs, écoutons ensuite une chanson de Project Pop dont le titre est Kalahkan dengan Cinta.
Project Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu, seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby you gotta wake up. Kalahkan dengan cinta, rasa benci dendam dan sakit hatimu. Kalahkan dengan
just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikan, karaoke, asyikan, shopping-shopping,
asyikan,
walking-walking. begini, kamu yang rugi. Dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up. Kalahkan dengan cinta, rasa benci, dendam, dan sakit hatimu. Kalahkan dengan cinta, waktu kan sembuhkan, dan lanjutkanlah hidup.
I say, baby, you gotta let go. Ngapain sih cari foto-foto? I know you miss him, so you look so sick, kayak dodo.
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Kalahkan dengan cinta » du groupe de musique Project Pop. Sortie en novembre 2017, cette chanson est le résultat de l'agitation de Project Pop envers des personnes qui sont facilement provoquées par les émotions. Pour vaincre la haine, le ressentiment et la douleur, on doit aimer nous-mêmes. Bien que les paroles parlent explicitement de quelqu'un qui vient de rompre, le message positif est très universel. Les auditeurs, même s'il est un groupe de musique senior en Indonésie, Project Pop existe toujours par ses œuvres pleines d'humour et divertissantes. Toutes les œuvres de Project Pop ont toujours des messages positifs tels que la paix, la diversité et l'amour pour les autres humains et pour vous-même. Avec cela, Project Pop prouve que des moyens négatifs ne sont pas nécessaires pour exister toujours dans le monde du divertissement. Les auditeurs, c'est tout le magazine musical d'aujourd'hui qui vous présente les chansons de Project Pop. Pour la terminer, je vous donne deux chansons de Project Pop dont les titres sont « Jangan Piki Piki » et « Goyang Duyu ». Bonne écoute et au revoir.
Ayo goyangkan diri, ayo
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Jika kau mencari cara untuk obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku, biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Cobalah dicoba, namanya goyang acak, goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak. Please jangan ditolak, ikutlah bergerak, tunggu musiknya, tunggu musiknya.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/frenca ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Semalam aku bertemu seorang yang sangat rupawan. Ternyata dia mantan kekasihku yang dulu telah kutinggalkan.
Tak kusangka ini terjadi saat mata beradu mata. Senyumnya membawaku hanyut dalam memori yang terindah.
Ku jatuh cinta lagi.
Chers amis, Encore merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.